David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et à l'Institut français d'analyse stratégique et vous êtes également rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons parler de la reprise la semaine dernière des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Les deux pays ont rompu leurs liens diplomatiques il y a plus de 7 ans. Alors, pourquoi cette reprise maintenant ?
Alors, c'est pas totalement une surprise parce qu'il y avait des négociations qui avaient été lancées en fait en avril 2021 à Bagdad sous l'égide de l'ancien Premier ministre Mustafa al-Hazimi. Et depuis, il y avait eu une succession de sessions, une demi-douzaine, qui ont finalement été concrétisées par l'accord justement, effectivement. Qui vient d'être signé, qui est un accord de normalisation. On peut pas parler de réconciliation puisque ce sont deux rivaux géopolitiques, mais ça clôt effectivement le cycle de la rupture des relations qui avait été décrétée en janvier de 2016 après le saccage de l'ambassade et du consulat saoudien en Iran.
Alors, c'est une reprise qui s'est faite sous l'égide de la Chine. Justement, quel rôle la Chine a joué dans ce processus ?
Alors, en réalité, la Chine est intervenue en fin de parcours, parce qu'initialement, les sessions précédentes de négociation qui avaient été initiées en avril 2021, d'ailleurs, étaient entre les responsables des services de renseignement des pays respectifs. Il n'y avait pas de caractère officiel. Il y a eu plusieurs réunions à Bagdad. Il y a eu Oman qui a servi de go-between selon sa tradition diplomatique, effectivement, de négocier, enfin de favorisant les négociations. Et puis en fin de parcours, il y a effectivement le rôle déterminant, semble-t-il, de Pékin. Il faut rappeler qu'il y a eu deux voyages, enfin en tout cas Xi Jinping qui était à Riyad le 7, 8, 9 décembre dernier, 2022, et puis que le président Raisi a fait un déplacement à Pékin du 14 au 16 février 2023. Donc on peut penser qu'à l'occasion de ces contacts, il y a eu un approfondissement de la réflexion sur les attendus d'une éventuelle effectivement finalisation d'un accord qui prend corps aujourd'hui et qui est un succès effectivement pour Pékin, qui montre que Pékin est devenu finalement un acteur international majeur susceptible de favoriser une dynamique diplomatique. Donc de ce point de vue là c'est inédit. Ça ne fera pas évidemment plaisir aux États-Unis, et d'autant moins que c'est aussi le signe d'une émancipation relative de l'Arabie Saoudite par rapport à l'alliance avec les États-Unis.
Alors effectivement, justement, comment se positionnent les États-Unis dans ce processus, dans le sens où on sait que les États-Unis sont un allié de l'Arabie Saoudite. On sait également qu'il y a des tensions entre la Chine et les États-Unis et que les États-Unis, sous Joe Biden, étaient favorables à la reprise des négociations de l'accord du JCPOA. Donc quelle est la position des États-Unis dans cette reprise des relations diplomatiques Iran-Arabie Saoudite ?
Il y a beaucoup d'éléments contradictoires. En réalité, on est dans un jeu à plusieurs bandes parce que, effectivement, formellement, il y avait, dès le début du mandat du nouveau président Joe Biden, il y avait l'idée de relancer le fameux JCPOA, hein, dont s'étaient extraits les États-Unis en mai 2018 sous le président Trump, Donald Trump. Donc, mais au fil des mois, l'accord en question s'est éloigné davantage. Et d'ailleurs, une formulation du président Joe Biden, non officielle, mais enfin en tout cas qui a été relayée, c'était l'idée que l'accord était devenu caduc, qu'il était mort, mais qu'on ne pourrait pas le reconnaître publiquement. Donc il y avait l'idée qu'aujourd'hui, les priorités étaient ailleurs. Même si tout le monde évidemment ne peut que se féliciter d'un apaisement de la tension au niveau régional, mais on voit bien que les intérêts des uns ne recoupent pas nécessairement les intérêts des autres, et en l'occurrence la question nucléaire est sans doute parmi d'autres un des éléments qui a poussé l'Arabie Saoudite à se rapprocher de Téhéran, dans la mesure où l'Arabie Saoudite a besoin d'une situation de déconfliction au niveau régional, pour notamment en interne, pour donner une chance de réussite à la réalisation de son fameux plan Vision 2030. Donc il y a un ensemble de paramètres qui sont très complexes parce qu'ils se superposent les uns les autres et les attendus de ces paramètres ne sont pas toujours évidents à saisir.
Alors, quand on parlait des relations entre Téhéran et Riyad, on présentait souvent les deux pays comme des rivaux régionaux. On sait aussi que dans la continuité des accords d'Abraham, Israël voyait d'un bon œil une normalisation de ses relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite. On imagine que maintenant, c'est un petit peu moins envisageable pour Israël.
Oui, pas nécessairement, parce que de toute façon, le prince Mohammed bin Salman se laisse toujours... plusieurs options et donc le fait qu'il se soit rapproché effectivement de Téhéran n'est pas forcément une hypothèque à terme avec un rapprochement avec Israël, même si évidemment aujourd'hui on peut considérer que c'est plutôt une victoire politique de l'Iran et un échec relatif d'Israël, en tout cas pour constituer un front anti-iranien. D'ailleurs, Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre, qui a évoqué le fait que ce rapprochement était dangereux pour Israël, que c'était une victoire justement pour l'Iran, que ça portait un coup fatal, je cite, aux efforts visant à construire une coalition régionale contre l'Iran. Donc de ce point de vue-là, l'Iran a fait montre de réalisme politique et d'une véritable stratégie pour diviser un éventuel front contre elle. Sur le fond, les enjeux de toute façon de la question de la problématique nucléaire sont loin d'être levés et donc il va falloir attendre un petit peu pour avoir une idée du repositionnement des uns et des autres par rapport aux conséquences d'un accord de ce type.
Alors justement, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire déjà, mais quelles vont être les conséquences géopolitiques de cette reprise de relations Téhéran-Riyad ?
Formellement, on en attend un apaisement régional. C'est d'ailleurs probablement, ça regroupait les intérêts des deux parties. De la part de Téhéran, c'était à la fois éviter la constitution d'un front anti-iranien dont l'Arabie saoudite aurait été partie prenante. C'est aussi sortir de son isolement qui était de plus en plus important ces derniers mois. De la part de l'Arabie saoudite, c'est effectivement chercher une situation d'apaisement vis-à-vis de son rival, parce que les enjeux de politique intérieure et notamment par rapport au plan Vision 2030 sont jugés essentiels par Mohammed bin Salman. Mais ça supposerait qu'on aille vers un apaisement plutôt régional, mais il faut être très prudent parce qu'en réalité, il y a une logique d'affichage, mais en même temps, les contentieux d'abord entre les deux rivaux sont loin d'être apurés, c'est un euphémisme. Et puis, en arrière-plan, il y a toujours cette fameuse question nucléaire et il y a une formule de Benjamin Netanyahou dans une interview à La Repubblica italienne, enfin le journal italien, en disant que l'histoire impartiale et impitoyable, elle ne favorise pas les vertueux, ni ne sont, je cite, ni ceux qui sont moralement supérieurs, elle favorise les forts, avec l'idée qu'effectivement cette question nucléaire devient de plus en plus prépondérante et qu'un accord de ce type ne sera pas forcément susceptible effectivement de bloquer une réflexion stratégique sur cette question.
Et dans la foulée, l'Iran espère également rétablir ses liens avec Bahreïn, pays qui a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en 2016. Alors pensez-vous qu'un rétablissement des relations entre l'Iran et d'autres pays du Golfe encore pourrait avoir lieu, comme par exemple le Koweït, Bahreïn ou les Émirats arabes unis ?
C'est certainement le calcul de Téhéran, puisqu'on sait que Bahreïn est très proche notamment de l'Arabie saoudite. Et donc effectivement le fait d'avoir renoué avec l'Arabie saoudite, les autres pays, il faut le rappeler, en 2016 avaient suivi la rupture des relations par solidarité avec Riyad. Donc à partir du moment où Riyad décide de rétablir, de restaurer ses relations avec Téhéran, on peut penser que l'Arabie saoudite ne sera pas le seul pays effectivement concerné, et là ça rebat effectivement les cartes par rapport au positionnement régional de l'Iran, dont les pays du CCG attendent certainement, et l'Arabie saoudite au premier chef évidemment, de faire montre d'apaisement, notamment par rapport à ses proxys, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban, les milices pro-iraniennes en Irak, et puis évidemment la milice Houthi au Yémen. Donc c'est certainement de ce point de vue-là une des raisons qui ont poussé l'Arabie saoudite à accepter de finaliser un accord.
Merci beaucoup, David Régoulet-Rose, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs, merci à vous. Je rappelle donc à nos auditeurs que vous êtes chercheur associé à l'IRIS et à l'Institut français d'analyse stratégique, ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci beaucoup.
Merci.